Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
C'était sur France Inter le week-end dernier. Ça se passe dans une église tapissée d'affiches de France Inter. La comique du jour s'appelle Camille Laurent. Elle est habillée d'une perruque et d'une robe longue et elle évoque les élus du Rassemblement National. On l'écoute et on la réécoute, ou on la réécoute pour ceux qui l'ont déjà entendue.
Balançons des poux pleins de typhus au siège du RN et voyons ce qui reste, voilà. Non mais je propose.
Je propose des petites solutions.
Je pense que ça ferait une super comédie musicale.
Jordan a une variole mortelle. Elle va le tuer en 3 jours. Jordan a une variole mortelle. Et Marion Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achète.
Oh non.
C'était sur France Inter, c'est insoutenable, ils sont tous furieux autour de la table et ils ont raison, évidemment. Alors, commentaire de Marion Maréchal, sa prestation est tellement gênante que cela ne me donne même pas envie de porter plainte. Donc ce sketch raté, il illustre les griefs de la commission à l'oncle qui se poursuit à l'Assemblée nationale et qui passionne les lecteurs de Boulevard Voltaire en particulier, les Français en général. Vous voyez que avec ce sketch que France Inter ne change pas. Petit tour de table, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous aviez vu ça d'abord?
Oui, oui.
Et comment est-ce que vous réagissez? Et comment surtout est-ce que ça illustre l'incroyable positionnement de France Inter?
Bon, d'abord, effectivement, le positionnement est invraisemblable, mais surtout, en plus, on l'appelle humoriste. Non seulement elle n'est pas drôle, mais elle est d'une médiocrité absolue. Elle ne sait pas chanter, ce qu'elle raconte n'est même pas drôle. Je ne sais pas si je repense, par exemple, à Guy Bedos dans le temps. Bon, on n'était pas toujours d'accord avec ce que disait Guy Bedos ou bien d'autres, mais cela étant, ça pouvait être marrant. Il y avait un réel cynisme, des sarcasmes, etc. Tandis qu'ici, c'est plat, c'est vide. Enfin, je sais pas combien est-ce que cette dame est payée pour une telle médiocrité. Je voudrais le savoir.
Faut demander à Charles Lalonde qui a demandé les contrats.
On ne sait pas. Damien Chalamel.
Moi, ce qui me frappe, parce que je l'ai déjà confessé à ce micro, je suis un auditeur quotidien de France Inter. Et alors effectivement, je dois subir...
C'est notre journaliste d'investigation.
Voilà, je dois subir ces séquences d'humour qui, la plupart du temps, mais sont absolument pas drôles. Et ce que je subis en particulier, c'est le rire gras et limite forcé de toute la petite bande du plateau. Et là, ce qui m'a frappé dans la vidéo que vous nous avez adressée, c'est qu'en fait, c'est une émission qui est enregistrée en public. Elle est délocalisée, je crois,
à Lille.
Voilà. Mmh. Et dans ce public choisi, c'est-à-dire, bon, on voit que ce sont des quinquas, sexagénaires, les hommes sont barbus, les femmes sont toutes en pantalon, avec des cols roulés. Bon, enfin, on voit très bien, c'est vraiment le public de France Inter caricatural. Et ben, même ce public ne rit pas franchement, alors qu'on voit la bande hilar. Donc, c'est-à-dire que voilà, même le public choisi auquel s'adresse France Inter n'arrive pas à même esquisser un sourire devant un étalage de telle nullité, quoi. C'est vraiment...
Ils vous diront que, évidemment, c'est pas facile de faire rire tous les jours, qu'on peut déraper.
Il est très mauvais, oui, effectivement. Oui. Oui,
non, mais il suffit pas d'être estampillé France Inter pour avoir du talent. Il suffit pas d'être estampillé France Inter pour avoir du talent. Ces gens-là n'en ont aucun. Puis tout ce qui est excessif est tout à fait insignifiant. Mais cela dit, France Inter, il y a pire.
Il y a de l'excessif qui peut être marrant. Le Luron était marrant. Il était excessif, mais il avait un talent fou.
Il était cynique et il avait du talent, on est d'accord. Voilà. Mais il y a pire que France Inter, il y a Radio Nova. Parce que les humoristes virés de France Inter, oui, je pense à Guillaume Maurice, se retrouvent chez Monsieur Pigas, donc Radio Nova. Je veux dire, il y a encore pire, si vous voulez, Damien, alors, casser des postes en les jetant.
Mais il y a une grande différence, Jean-François.
Oui, mais je suis d'accord, c'est privé, et là, c'est public.
C'est une radio privée.
Voilà, et là, c'est donc, public. Mais France Inter, ça va s'arranger maintenant avec Madame Pigalle qui arrive aux manettes. Ça va être formidable.
Alors, oui, c'est absolument, vous avez raison d'en parler. Il y a une petite révolution de palais. Adèle Van Rett, qui était la patronne de France Inter, a été remplacée un peu au pied levé, si on a bien compris. repris par Céline Pigalle.
Est-ce que c'est suite à cet événement qu'elle est remplacée ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Alors non, a priori ça n'a rien à voir d'après ce que j'ai lu, mais enfin c'est quand même... Il y a une baisse.
Elle voulait quitter. Oui. Alors, est-ce que la France Inter reste à faire la course en tête?
C'est le fond du décor.
Céline Pigalle voulait quitter ses fonctions au bout de 4 ans et récupérer l'antenne, mais elle avait prévu ça pour la fin de l'année.
Adèle Van Rett, pardon.
Elle avait prévu ça pour la fin de l'année. Là, ça va très vite. Ça s'est accéléré.
C'est ça.
Pourquoi ça, on ne sait pas, mais en tout cas, la Maison Ronde a été assez sidérée ces jours-ci. Ouais. Mais encore une fois, Madame Pigalle, Céline Pigalle. C'est formidable, elle va passer là où elle passe. Attention, les audiences trépassent. Vous verrez si j'ai raison.
Absolument. Alors, ça, c'était pour Radio France, hein, mais de Radio France à France Télévisions, le pas est assez court. Et je voulais qu'on écoute un petit document. C'est Delphine Ernotte qui parle. Pardon, c'est Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture et qui a donc été la tutelle de France Télévisions, qu'on interroge lors de cette commission sur la prime de performance qui a été votée et versée à la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Écoutez, Roselyne Bachelot.
Cette prime de performance qui est allouée à des présidents, directeurs ou présidents-directeurs d'établissements publics ne salue pas seulement une performance financière qui de toute façon ne s'applique pas aux établissements, à un établissement public comme France Télévisions, ce n'est pas une entreprise privée. Moi, je n'ai pas les moyens de juger si cette prime de performance, qui peut saluer une augmentation du travail, une implication, etc., qui peut d'ailleurs être modulable. Moi, je ne sais pas quelle aurait été la prime maximale. Est-ce que cette, on l'a dans la part variable des rémunérations, elle peut être descendue, etc. Moi, je n'ai pas ici, hic et nunc, le montant de la part variable du salaire de Madame Ernotte.
Merci, Mme Bachelot.
La question que vous me posez, est-ce qu'elle le mérite ou elle ne le mérite pas, je n'en sais strictement rien. Le conseil d'administration jugera.
Voilà, ça patauge ferme, hein, vous voyez, pour savoir si Delphine Ernotte mérite sa prime. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une prime donc, de performance de 80 000 euros qui est versée à la patronne de France Télévisions, qui fait quand même l'objet, France Télévisions, de polémiques absolument continues, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui en plus est très mal gérée, puisqu'elle a fait apparaître des déficits, elle fait apparaître des déficits malgré l'argent absolument prodigieux. France Télévisions à lui seul, c'est 2,5 milliards d'euros de subventions par an.
Avec parce que je crois que M. Alloncle, la commission va s'attacher à ça, au contrat privé, parce que beaucoup de ce que l'on voit sur les antennes de France Télévisions sont fabriqués par des sociétés de production privées, avec de l'argent public qui commande. Or, pourtant, ils sont beaucoup à France Télévisions, ils pourraient beaucoup faire des choses eux-mêmes. Non, ils délèguent. Et là, on risque d'avoir des surprises. Moi, je me souviens, quand j'étais producteur, c'était quasiment impossible de pénétrer, il y a très longtemps de ça, mais de pénétrer comme producteur privé France Télévisions, parce que je n'avais pas la carte du club. Donc, si vous n'avez pas la carte du club, c'est vraiment un mur se dresse devant vous, c'est niette.
Philippe Jarlaz.
Oui, moi, j'ai entendu l'audition de Rachida Dati, et donc je l'ai trouvée... distante par rapport à ça, donc c'est-à-dire elle répond trouve qu'elle répondait peu aux questions en disant chaque fois que ça n'était pas de sa responsabilité et que finalement elle n'avait pas jugé telle ou telle chose, tout en exprimant, je suis d'accord avec vous, qu'elle ne le partageait pas. Notamment cette fameuse scène avec cette femme qui est déguisée en Marie-Antoinette, c'est absolument invraisemblable. Mais disons que si elle critiquait, elle critiquait de façon distante, comme nous pourrions le faire, mais on a l'impression que finalement la ministre de la Culture là-dedans n'a pratiquement aucun pouvoir.
Non mais Rachida Dati, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, il n'y a qu'un programme qui l'intéresse, c'est Paris, 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 c'est tout. Voilà, une fois qu'on a compris ça.
Enfin là, elle était.
Elle est quand même ministre de la Culture,
elle était invitée à parler de l'audiovisuel public, elle en a un peu parlé. Damien Chalamel, vous vouliez dire un petit mot, non?
Non, mais j'ai regardé, j'essaie de regarder au moins les moments saillants de cette commission, et je m'interrogeais sur la dernière altercation qui a opposé son président au rapporteur.
Ah oui.
Le rapporteur insinuant que le président aurait des liens particuliers avec certains actionnaires de Media One. Je me suis demandé, mais moi qui suis tout à fait extérieur à ce milieu, de quel lien il pouvait s'agir entre Media One et j'ai oublié le nom du président.
Oui, de la président de la commission.
Pierre-Antoine Capton, peut-être. Ah non, alors, de la commission. Non, ça c'est le patron de Media One.
Capton,
Media
One, c'est voilà.
Mais, le président de la commission s'appelle Jérémy Patrieletus.
Voilà, donc il y a manifestement un lien entre ce monsieur Capton.
Non,
ce
pas manifeste, Jérémy. Il n'en a pas apporté la preuve, Charles Lalonde.
Non, mais je pense qu'il y a un lien. Non, mais parce que
le président est macroniste, je crois.
Le président a vécu aux États-Unis, monsieur Capton.
Horizon, je crois.
Voilà. Horizon, oui, macroniste.
Ah, oui, c'est pas sûr que les horizons soient macronistes, là. Oh là là, vous compliquez, là.
Il y a beaucoup de nuances, hein. Il y a plusieurs... de
dans
la maison du père Macron.
Ouais. Hein, voilà.
Alors,
gris, ouais.
Je voulais vous faire entendre un autre petit extrait. On parlait de la gabegie de France Télévisions. Laurent Delahousse a refusé de communiquer à Charles Lalonde, hein, le montant total de sa rémunération en qualité de salarié de France Télévisions, comme tous ceux à qui la question a été posée, et comme notamment Léa Salamé. On l'écoute.
Pour ce qui est du montant, vous ne me le demandez pas, mais c'est très clair, la direction de France Télé, et ce sera une règle qui va s'appliquer à tout le monde, à tous ceux que vous auditionnerez, estime que ces informations sont confidentielles et nous a demandé de ne pas les adresser publiquement. Je me conforme à cette consigne, mais vous les avez, vous avez tout.
Voilà, donc la direction de France Télévisions a demandé qu'on ne donne pas les salaires, sachant que le salaire moyen est supérieur à 72 000 euros, je crois. Et donc, on ne le dit pas. Voilà.
Léa Salamé,
c'est simple.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Salamé, mais bon, voilà.
Tu es d'accord ?
La rémunération, quand bien même votre employeur est public, ça relève de la vie privée. Par ailleurs, étant une rémunération publique, comme elle le précise bien, cette commission qui est présidée par des députés a les chiffres.
Donc, mais non, elle n'a pas les chiffres.
Bien
elle
sûr
a des
que
moyennes.
Si.
Elle
n'a
pas les
chiffres. Non, chaleurs, pas du tout.
Ah ben non.
Mais là, ils ont les chiffres des
rémunérations stars, on va dire.
Exactement.
Pas
donc
du dernier caméraman.
Si. Simplement, ce que se refuse à faire Madame Salamé et ceux qui sont auditionnés, c'est à dire urbi et orbi, c'est-à-dire au micro de... Voilà, publiquement leur rémunération, ce qui me semble tout à fait normal. Sinon,
je vous trouve extraordinaire. On
mais
connaît les rémunérations de tous les députés, de tous les sénateurs, du président de la République, de tous les gens qui sont payés par la puissance publique.
Attention, ils ont été élus, pas nommés. Est-ce que vous connaissez, on parlait d'éducation tout à l'heure, les inspecteurs qui vont, est-ce que vous connaissez leur rémunération? Pourtant, ils sont payés par l'État. Non, on n'est pas forcé de connaître, de mettre ça publiquement, je suis d'accord avec Damien. Sauf pour les grandes figures. Quand Léa Salamé nous a fait tout un truc, oui, j'ai choisi France Télévisions le 20h, alors qu'elle pouvait venir à BFM où elle était payée deux fois plus, etc. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'elle est payée pour le 20h, d'une part, et puis elle est payée pour son émission du samedi soir, comme productrice et comme producteur, dont je sais pas si elle a pas de quelque part, peut-être dans une boîte de prod aussi. Donc elle a un double salaire, en fait. Donc si ce double salaire, c'est exactement ce que lui offrait, et peut-être même plus, le privé. Donc il faut pas raconter d'histoire, quand même, aux gens. Donc ça marche comme ça, dans le service public.
Non, mais c'est vrai qu'ils gagnent un petit peu moins, mais enfin, ils ont d'autres avantages, ils ont des vacances à rallonge, et le salaire moyen est quand même pas tout à fait nul. D'ailleurs, c'était l'objet d'un clash entre le président de la commission, Jérémy Patrieletus, on en parlait à l'instant, et le rapporteur Charles Lalonde, on les écoute.
Détenu en majorité par un fonds d'investissement américain, merci. C'est tout ce que je dis.
D'accord.
Et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux.
Merci monsieur le rapporteur, vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux.
C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois ?
Merci messieurs les ministres.
Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu t'interromps ?
Monsieur le rapporteur,
Je viens de suspendre cette audition.
Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets
monsieur,
fin à cette audition
présent,
et je remercie les ministres
monsieur
de leur
présence. Monsieur le président, j'avais des questions.
portante.
Là, 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 des susceptibilités.
Voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc, non, mais on sent bien à travers ce petit épisode de tension entre le rapporteur et le président de la commission sur l'audiovisuel public. On sent bien les tensions absolument impressionnantes qui sont là-dedans. Hein. Le président a évidemment beaucoup de pression de la part de toute la gauche et de France Télévisions. Le rapporteur ne lâche rien. C'est un véritable chien de chasse là qui les poursuit et on voit bien que ça va jusqu'à la
je ne sais pas hein, s'ils ont parlé déjà dans les gens qu'ils interviewent et qu'ils écoutent, je sais pas s'ils ont déjà parlé de la publicité parce qu'il me semble souvenir que sous notre ami Sarkozy, une loi avait été votée, plus de pub après 20h30. Or, tout ça a dérivé largement, c'était pour bien que sûr, les programmes commencent beaucoup plus tôt. Parce que maintenant, un programme commence à 9h15, quoi, je veux dire, c'est insupportable. Donc, pareil pour France Inter. France Inter, il n'y a pas très longtemps, on a voté cette veste de la publicité institutionnelle. Alors, pour les affaires de l'État, etc. Maintenant, on vend des voitures sur France Inter, etc. Je me demande s'il n'y a pas eu une dérive, là. Il faudrait vérifier. Je pense que la commission va s'en est occupée, je ne l'ai pas entendu, ou va s'en occuper, je l'espère.
On est sur des trucs bien plus graves que la publicité, on s'en fiche de la publicité.
Ah non, non, on ne s'en fiche pas du tout. Parce que la publicité, c'est ce qui manque, c'est le service public, c'est ce qui manque. Comment vous financez le privé, sinon le privé n'est financé que par la pub. Et ça, ce que vous retirez en mettant sur France Inter, sur Radio France, sur France Télévisions, des spots de pub, c'est ce qui est à moins pour le privé.
Oui, mais c'est très bien pour le privé, mais le public s'en fiche. Complètement.
Bah, oui, non, mais vous retirez des. La séparation était claire, et puis tout d'un coup, ça a basculé. Ça m'allait très conscient qu'on s'y intéresse.
Est-ce que vous pensez, question à tous les trois, est-ce que vous pensez que le service public, dont on voit bien qu'il est secoué, hein, le changement de patronne à la tête de France Inter montre qu'il y a des secousses, est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose sans aller jusqu'à la privatisation? Peut-être. Est-ce qu'il sera...
Après 2027, après l'élection présidentielle.
Est-ce que ça sera le privatiser? Et est-ce que d'ici là, ça va le forcer à peut-être à changer de ligne, à changer de comportement, à changer de tête.
Non. Mais non, on ne va pas. Là, on rentre, regardez, Radio
Vous
France...
Vous connaissez bien cette maison.
Radio France s'est mis en position de bataille avec les gens qui ont été nommés, etc., pour l'élection présidentielle. Là, maintenant, ce qui compte, c'est l'élection présidentielle. Donc, c'est mai 2027. Voilà, s'il y a des changements, il y aura des changements, je le souhaite, je l'espère, après. Avant, il n'y aura pas. Et la guerre va être terrible entre les journalistes du privé et du public. Vous allez voir, ça a déjà commencé. Regardez comment le public prend un parti, les médias dits Bolloré, comment les coups sont rendus, etc. Les coups les plus durs vont venir de là. Et ce n'est pas fini, vous allez voir.
Mais je pense que pour tuer le ver dans le fruit, le seul moyen, c'est la privatisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment...
Vous êtes favorable à la privatisation
en tant que libéral, je suis tout à fait favorable à la privatisation de tout.
Non, pas de tout.
Ah, au moins comme ça il y aura plus de discussion.
Attends, on doit garder.
Laissez Philippe finir.
Au moins comme ça il y aura plus de discussion. Chacun s'exprimera comme il veut. Ce sera son propre argent et le contribuable n'y participera plus.
Non, on doit garder France 24. On doit garder RFI. La question pour l'étranger, etc. On doit garder il y a trop de chaînes.
Il y a des choses France à sauver dans France Télévisions.
Oui, France Télévisions, il y en a trop. Quoi, je veux dire, il y en a trop.
Sur les 4 milliards, il y a 3 milliards 500 millions à récupérer.
Mais regardez,
c'est pas mal par an quand même.
À Radio France, il y a combien d'orchestres à Radio France? Il y a combien d'orchestres?
Deux, je crois.
Oui,
c'est ça, deux.
Il y a besoin d'avoir deux orchestres philharmoniques à Radio France.
Plus un chœur.
Oui, plus un chœur. Mais regardons le chœur, supprimons un orchestre. Il y a besoin d'avoir deux orchestres.
Mais si vous privatisez pas, ça se fera pas.
Damien Chalamel.
Est-ce qu'il faut
privatiser France
Télévisions? Je suis de l'avis de Philippe. Mais Charles, qui conviendrait...
Vous êtes un affreux libéral.
Non, pas du tout.
Je considérais qu'on n'a pas besoin de ça.
Je suis un critique de l'étatisme. C'est pas pareil. Mais pour répondre à votre question, moi je ne préjuge pas. J'aimerais bien... on aura ce rapport. Ça illustre d'ailleurs quelque chose qu'on avait vu à l'œuvre lorsqu'il y a eu cette... commission parlementaire sur l'ingérence étrangère qui avait été voulue par le Rassemblement national, mais qui présidait cette commission, mais manque de chance pour eux, ils ne s'étaient pas aperçus qu'effectivement, enfin, le rapporteur, en mémoire c'est une femme, était macroniste. Cette commission s'était retournée contre leur instigateur. Bah, là, on assiste à exactement à la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, cette commission, c'est du fait justement du choix du rapporteur, qui est beaucoup plus important que le président. ça se retourne, alors non pas forcément contre ceux qui l'ont instigé, mais en tous les cas, ça montre le rôle déterminant. Alors moi, j'ai hâte de lire le rapport de Monsieur Alloncle, et j'ajoute que vous auriez pu choisir comme extrait, mais vraiment magnifique, de cette commission, c'est l'intervention de Caroline Parmentier, journaliste bien connue et longtemps appréciée de lecteurs de l'excellent quotidien présent,
et qui est aujourd'hui député
Rassemblement National, ouais. Et qui a eu la bonne idée de demander ironiquement à Madame Salamé si sérieusement elle pensait pouvoir être à l'antenne. Si, sachant qu'elle est l'épouse à la ville de Monsieur Raphaël Glucksmann, si elle était l'épouse de Jordan Bardella. Bon, bien évidemment, on connaît la réponse implicite. Voilà. Et alors, elle a la fausse naïveté de dire que ça n'avait bien évidemment rien à voir et que voilà, que pourquoi pas. Voilà. Bon, tout le monde a bien compris qu'effectivement. Madame Léa Salamé, comme tant d'autres, est l'incarnation de l'entre-soi.
Léa Salamé est avec Bardella ?
Non. Pas encore.
Non, justement.
Mais encore.
Mais Caroline Parmentier lui a dit, voilà, vous étiez avec Bardella, ce qui a fait beaucoup rire.
Pensez-vous réellement que vous pourriez vous mettre à l'antenne ?
Je vous ferai remarquer que dans le programme de l'UDR et dans le programme du RN, et dans le programme d'IDL, il y a bien la privatisation complète de...
Alors c'est de l'ensemble du visuel. Hein.
Absolument.
Alors, très bien.
Des 4 milliards d'euros.
Ce serait une économie considérable, parce qu'il faut quand même mesurer que les 4 milliards d'euros de l'audiovisuel public pèsent autant que tout le reste du budget du ministère de la Culture.
Culture, bien sûr.
Ces 4 milliards
quand on pense au patrimoine
du ministère de la Culture, le patrimoine, le spectacle vivant, etc., etc. Et 4 milliards de plus, donc ça double le budget du ministère de la Culture.
Et donc le RN réinjecte tout dans les monuments publics. C'est son programme.
Et vous ne pouvez pas vous couper de RFI et de France 24,
bon, qui est la voix de la France étrangère. On va vous laisser RFI et France 24.
Est-ce qu'on accorde, on va voter autour de ce plateau, est-ce qu'on accorde RFI et France 24
Oui.
Des arts. Ça serait une erreur. Ça.
On les reprend chez Radio Courtoisie. Voilà. Bénévolement.
Bénévolement. Radio Courtoisie reprendra les fréquences très gentiment. Allez, nous allons parler culture.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
C'est l'heure de notre clin d'œil culture. Je suis entouré de Damien Chalamel, notre brillant maître à tous, de Jean-François Coulon des Arts, un autre maître, et de Philippe Charlez, qui lui aussi maîtrise pas mal. Et donc, c'est l'heure de notre clin d'œil culture. Je commence par qui ? Tiens, allez. Philippe Charlez, je vous sens...
Alors, moi, j'ai été voir un très beau film. J'ai vu deux beaux films, d'ailleurs. Le premier, j'en avais parlé il y a deux semaines. Hein. C'était le mage du Kremlin. Et là, j'étais voir l'affaire Bojarski. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ah, je l'ai vu.
Et donc, j'ai trouvé ça. Enfin, ces deux films vont vraiment réconcilier avec le cinéma. Donc, je vous rappelle que l'affaire Bojarski, c'est ce Bojarski et ce Polonais qui a failli faire tomber la Banque de France il y a 50 ans. Donc, c'est un faux monnayeur. Mais en fait, il est devenu, c'est pas un mauvais bougre, il est devenu faux monnayeur parce que c'est un gars qui a une imagination absolument exceptionnelle et qui devient faux monnayeur parce qu'en fait, il a un talent incroyable et il n'est pas du tout reconnu par la société. On refuse ses brevets, etc. Et donc finalement, c'est un peu mort dans l'âme qui devient faux monnayeur. D'abord dans un gang, et puis finalement, le gang est découvert et pratiquement exécuté. Et lui est miraculeusement épargné, et donc finalement, il se met faux monnayeur à son compte, si j'ose dire. Et donc il avait à l'époque quand même, puisque c'est une histoire vraie, détourné l'équivalent, fin des années 50, début des années 60, l'équivalent de 5 millions d'euros à l'époque. Il faut savoir qu'il n'a été arrêté qu'au bout de 13 ans avec une erreur magistrale, c'est d'avoir embauché un de ses copains d'enfance qui n'était pas du tout fiable. Donc en tout cas, je vous encourage à aller voir ce film, on ne s'ennuie vraiment
Alors,
pas.
Alors, je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un film absolument excellent, comme vous, Philippe, et c'est extraordinaire, très bien joué, ça vaut vraiment le coup d'y aller. J'ai trouvé par contre qu'ils avaient ajouté à ce film une espèce de fond de discours antiraciste, anti-droite, on va dire, qui est absolument insupportable et on nous le présente comme un immigré et qui, parce qu'il est immigré, est refusé par la société française et qui le pousse et le contraint quasiment, sa qualité d'immigré, à basculer dans l'illégalité.
Oui,
etc.
Alors.
C'est un peu insupportable, mais et c'est très très insistant ce côté-là. Mais ça vaut le coup d'aller le voir quand même.
Philippe, il vient de vous descendre votre film comme là. Hein. Il vous l'a massacré.
Parce que j'ai dit que c'était un très bon film.
Je ne suis pas fondamentalement d'accord. En plus, c'est un immigré polonais. Et donc, c'est vrai que je pense qu'à l'époque.
Ils ont fait jouer le personnage par un acteur algérien qui est d'ailleurs excellent.
Il est français.
En tout cas, moi je dis qu'à la fin, quand il est arrêté, moi il est tellement sympathique que j'espérais qu'il soit relaxé. Voilà.
Très bien.
Ma femme était d'ailleurs pas du tout d'accord avec.
Donc l'affaire Bojarski, réalisateur.
Ah, je me rappelle plus.
Oh, alors vous allez nous le dire, cherchez vite. Hein, Jean-François Coulourd-Désart.
Alors, allez voir une exposition, si vous êtes à Paris, rue de Rivoli, vous allez au Louvre, au musée Art Déco. Il y a une exposition sur l'Art Déco, 1930, qui est, ma foi, pas trop mal faite, un peu touffue. On sent que les conservateurs ont sorti en tout cas une bonne partie de leurs réserves. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que, bon, il y a des pièces qu'on connaît, hein, de Lalique, de Herbst, etc., mais il y a un truc intéressant, au rez-de-chaussée, il y a un wagon de l'Orient Express. Vous savez que les Français se sont mis en tête, la SNCF s'est mis en tête, de refaire un Orient Express du 21e siècle. Et là, il y a déjà une cabine qui est entièrement faite, alors avec des créateurs d'aujourd'hui, de l'époque, et ma foi, c'est très très réussi. Donc vous allez voir, en avant-première, ce train, ce nouvel Orient Express qui roulera bientôt sur les lignes ferroviaires françaises et européennes, je l'espère. Et c'est très beau.
Ce sera un vrai Paris-Istanbul.
Alors j'espère. Pour l'instant, vous avez
l'Orient Express, c'était
un Paris-Istanbul. C'est assez fluctuant, mais j'espère que ça va vite être mis sur les rails, parce que la SNCF possède aussi une douzaine d'anciens wagons qui ont été restaurés. Alors les lacs du Nord.
Est-ce que vous offrirez un trajet à Istanbul, Jean-François Goulard?
Si ça marche comme ça, oui, bien sûr.
Oui, moi, ça me tente aussi.
Avec grand plaisir, oui, oui.
Ça me tente.
Il y a déjà deux clients.
C'est une qualité.
Ça me tente aussi.
C'est ce qu'il y a de mieux. C'est tous les créateurs français, ce qu'il y a de mieux, on le met dans ce train. C'est vraiment bien.
Extraordinaire. Ça donne envie.
Alors, allez-y. C'est rue de Rivoli, vous savez.
D'y aller. Moi, si m'invite, j'irai.
Allez-y. De toute façon, avec une carte de presse. Vous pouvez rentrer partout, vous.
Oui, j'espère. Damien Charamel,
eh bien,
votre coup de cœur de...
Oui, mais écoutez, allez dans votre librairie et achetez très vite le dernier ouvrage de Mathieu Boccoté, Les Deux Occidents. Mathieu Boccoté, j'emprunte la formule à l'excellent François Bousquet, c'est le détecteur de mensonges du gauchisme culturel. Et dans ces deux Occidents, il dresse un portrait toujours enlevé, toujours
très
brillant,
bon auteur. Ouais.
Du schisme qui est en train de traverser l'Atlantique, avec d'un côté à l'ouest une révolution conservatrice qui pourfend le mondialisme, l'immigrationnisme et autres ismes peu saillants face à une Europe déclinante qui est toujours imprégnée d'un progressisme. Et de ce qu'il appelle de la religion diversitaire, hein, toujours privilégier les minorités sur quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, sur la majorité des peuples européens.
Ce que Jean Raspail appelait le Big Other.
Le Big Other, voilà. Alors il y a le Big Other, mais le Other peut être de toutes sortes, hein, ça va au-delà de la question ethnique.
J'avais été invité à l'Institut de formation politique où il présentait son livre. Et donc, en fait, il présente que finalement, la chute du mur de Berlin en 1991 est non seulement, je vais dire, un basculement économique, parce que pour moi, c'était surtout un basculement économique, mais il considère aussi que c'est un véritable basculement sociétal. Et que il a expliqué que son sentiment, c'était vraiment que les choses ont vraiment changé, pas seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue sociétal, après la chute du mur de Berlin. Donc là, c'est quand même quelque chose de très nouveau.
C'est le point de rupture, mais ça, c'est pas le seul à le dire. Hein. Il est, c'est vrai qu'on le présente souvent comme un point de rupture.
Oui, mais on le présente quand même souvent un point de rupture plus économique que... Donc, c'est-à-dire la chute du communisme face à la démocratie libérale. Alors que là, il explique que non, c'est aussi une rupture profonde sociétale et que mai 68, qui pour moi était la vraie rupture sociétale, n'explique pas tout et que la chute du mur de Berlin l'explique. Je m'arrête là.
Non, mais on vous écoute avec passion.
Mais vous n'avez pas l'accent de Mathieu Bocoté, ce petit accent québécois charmant et chantant.
Philippe Charlès, c'est l'esprit belge, c'est l'accent belge.
Est-ce que vous savez comment on dit en québécois un frein à main ?
Non. Ah non.
C'est un break à bras.
Ah bon.
Est-ce que vous savez comment on dit faire du shopping en québécois?
Pour ça, ils sont partis.
Ils disent on va magasiner.
Il y en a un autre, je ne sais pas si on peut le dire. On va quand même le dire.
Non, on
ne
peut pas le dire.
On ne le dit pas.
Les grands font un compliment à une jeune fille.
Alors on ne le dit pas.
Un compliment à une jeune fille, comment on fait? On dit mademoiselle, vous êtes belle comme un appel au péché. C'est charmant quand même.
C'est pas mal. C'est pas mal, c'est charmant. Alors moi, j'avais un petit clin d'œil culture aussi, si ça vous ennuie pas trop, et il nous reste un tout petit peu de temps, c'est le livre de Claire Géronimi. Vous savez, c'est cette jeune fille qui est aujourd'hui vice-présidente de l'UDR, mais qui a subi surtout un traumatisme terrible, puisqu'elle a été violée par un OQTF il y a quelque temps. Elle en a tiré un livre qui s'appelle le hall ou le hall d'entrée. « Pour eux, je n'avais pas le bon profil », c'est le sous-titre, c'est édité chez Fayard, dans la collection Récits. Et Claire Géronimi livre là un récit absolument glaçant. Hein. C'est, elle dit qu'elle raconte cette tentative. Elle dit à un flic hein, dans un commissariat qu'elle a subi une tentative de viol, qu'elle vient de subir une tentative de viol, elle était évidemment complètement tremblante, etc. Et le gendarme lui répond « Non, mademoiselle, vous avez subi un viol et une tentative de meurtre. » Et ça ouvre le livre. C'est extrêmement poignant, extrêmement sensible, très bien écrit. Je crois qu'on ne regardera pas après... avoir lu ce livre, les conséquences de l'ensauvagement et de l'immigration sauvage, de la même façon. C'est vraiment un livre qu'il faut lire d'urgence, je crois, pour tous ceux, notamment, qui nient l'ensauvagement et qui défendent l'immigration à tout craint, qui se fichent que pas mal que les OQTF restent en France ou pas. C'est admirable de courage, de simplicité, de gentillesse, un peu comme cette jeune femme que j'ai croisée quelquefois et
elle
qui était absolument charmante. Oui, elle s'est reconstruite, notamment en s'engageant dans la politique. Elle est très forte et ce livre vaut vraiment le détour. Voilà, nous arrivons au bout de cette émission. Restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous, Damien Chalamel, Philippe Charlès, Jean-François Coulon-Desart. Merci à la technique qui nous a accompagnés. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux heures en votre compagnie. Radio Courtoisie, comme Boulevard Voltaire, reste un miracle permanent et fragile. Ne l'oubliez pas, qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie et Boulevard Voltaire dans le climat actuel, ben c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 13 février, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30, sur Radio Courtoisie, avec toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.